Bonjour et bienvenue dans Parole d'expert, le podcast de l'ASL, l'autonome de solidarité laïque, qui aborde les grands sujets liés au métier de l'éducation. Aujourd'hui, nous abordons la thématique école et violence, et plus précisément la question des violences physiques dans le cadre scolaire. Y a-t-il une recrudescence de ces violences physiques? De nouveaux phénomènes émergent-ils? La réponse des pouvoirs publics est-elle à la hauteur des enjeux? Quelles solutions peut-on proposer? Pour en parler, nous recevons Benjamin Moignard, professeur en sciences de l'éducation à l'Université Cergy-Paris, laboratoire EMA, et président de l'Observatoire universitaire international éducation et prévention, qui s'intéresse en particulier aux violences à l'école. Bonjour Benjamin Moignard.
Bonjour.
De nombreux faits divers laissent penser aujourd'hui que les violences physiques sont en recrudescence à l'école. Quel est votre point de vue sur cette question ?
Alors, faut se méfier des faits divers parce qu'ils ont des effets de focus sur des phénomènes qui sont souvent dramatiques, qu'il faut pouvoir évoquer, travailler, mais qui disent pas la réalité de ce qu'est la violence à l'école. La violence à l'école, elle est plutôt stable dans le temps. On l'évoquait dans un autre podcast sur les incivilités. Elle est relativement stable, même si il y a des différences entre les établissements qui vont se creuser. Il y a peut-être un phénomène qui s'accentue particulièrement, c'est celui de la violence en groupe, qui est particulièrement marqué. Alors, elle va être traduite dans l'espace public, médiatique, par ce qu'on appelle les violences et les rixes entre bandes de jeunes. Bon, sous ce terme, il y a beaucoup de choses. Ce qu'on sait, du point de vue de la recherche, c'est que effectivement, il y a des établissements dans lesquels les violences s'opèrent plutôt en groupe et que quand ça existe, alors c'est particulièrement criminogène, c'est-à-dire que ça augmente globalement la violence à l'échelle d'un établissement scolaire.
Ce phénomène de confrontation entre bandes rivales, est-ce qu'il est accentué par l'essor des réseaux sociaux ?
Alors accentué, c'est difficile à mesurer. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça va venir mettre en scène et accentuer la mise en scène de ces affrontements-là, leur diffusion. On parle de digitalisation des rixes aujourd'hui. Maintenant, les rixes, elles sont très anciennes. Elles existent depuis longtemps, y compris dans l'espace scolaire. On a le sentiment, justement, au travers d'un certain nombre de faits divers, que c'est quelque chose de nouveau. Les chiffres montrent plutôt un recul si on prend les faits les plus dramatiques, par exemple de morts ou même de blessés, dans le cadre de rixes, que ce soit à l'intérieur de l'école ou à la périphérie de l'école. Donc, il faut être prudent par rapport à ça. Les réseaux sociaux, ils sont très opérants pour la mise en scène de ces phénomènes. Maintenant, les accentuer ou les développer, on n'a pas attendu les réseaux sociaux pour que ça existe.
On a des chiffres sur le phénomène ?
On a des chiffres qui sont assez difficiles à stabiliser parce que des choses sont mélangées entre les rixes, entre les affaires de drogue, pour ne retenir que celles-ci. Donc on a quand même quelques productions à l'échelle des académies qui vont faire remonter des faits à partir des signalements des chefs d'établissement, par exemple. C'est là qu'on voit qu'il n'y a pas une explosion de ces phénomènes. C'est très différent d'un territoire à un autre, y compris dans une même académie. Souvent, il y a des établissements qui sont plus en difficulté que d'autres. Et d'ailleurs, dans un certain nombre d'académies, je pense à l'académie de Créteil, par exemple, il y a des dispositifs spécifiques d'accompagnement qui sont mis en place, les GAEL, qui visent à mieux outiller les professionnels et à les accompagner par rapport à ces phénomènes.
Justement, ces professionnels, comment vivent-ils ces tensions, ces violences, lorsqu'ils y sont confrontés ?
Ils les vivent mal, mais ils ne les vivent pas tous de la même manière selon l'établissement dans lequel ils sont. En tout cas, jamais ils ne s'en satisfont, ça c'est une évidence. Ce qui est après plus important, c'est de voir comment des équipes, malgré un contexte défavorable, parviennent à inverser les déterminismes sociaux ou même à avoir un établissement qui devient un espace de protection par rapport à des choses qui peuvent émerger dans le quartier. On n'en parle pas souvent, c'est-à-dire qu'on est souvent sur un modèle qui serait celui d'une école qui subit toujours des intrusions. Elles existent, elles sont dramatiques quand elles arrivent, mais elles sont en nombre cependant extrêmement limité. Et beaucoup d'établissements parviennent à l'inverse à faire que leur mur soit un espace de protection. Ça, c'est lorsque on a des équipes qui réussissent à s'inscrire dans le temps. Cet aspect-là du temps est important dans un établissement, dans une école, dans un quartier. Savent repérer aussi des tensions qui peuvent émerger à partir de pas grand-chose. On sait que ces rixes s'organisent autour de pas grand-chose. Et ça, c'est quelque chose d'important, d'avoir ces collectifs sur lesquels on peut prendre en charge ces aspects, les sentir venir et essayer de désamorcer tout ça.
L'année 2018 a été marquée par le mouvement hashtag pas de vague, consécutif au braquage en classe d'une professeure avec une arme factice. Qu'est-ce que cela dit de la relation des enseignants avec leur hiérarchie ?
Ça dit beaucoup de choses d'un sentiment de défiance qui est très fort et qui, depuis une dizaine d'années maintenant, est jamais démenti. C'est-à-dire qu'on a en France, et c'est quand même une particularité française qu'il faut pouvoir noter, une défiance très forte à la fois à l'égard de la hiérarchie directe, chef d'établissement, en particulier dans le second degré. C'est plus mitigé dans le premier degré, c'est pas les mêmes relations. mais très très forte à l'égard de la hiérarchie indirecte, c'est-à-dire les inspecteurs, le rectorat, avec un fonctionnement de fait qui est extrêmement pyramidal. Beaucoup de recherches ont montré, ont mis à jour une souffrance enseignante, y compris à l'égard de ce traitement par la hiérarchie qui est fait aux enseignants. C'est un enjeu important parce qu'on a finalement le sentiment d'un décalage entre un système de management très descendant, très hiérarchique, qui est plus tout à fait adapté au temps de l'époque, mais de fait, l'éducation nationale en particulier doit composer avec une variable qui n'est pas tout à fait un détail. C'est le plus gros département de ressources humaines en Europe. C'est une institution énorme avec des contraintes fabuleuses. Et donc, il faut composer avec. Mais il y a un décalage aujourd'hui, très clairement, entre le terrain et la hiérarchie.
Que penser alors du dernier plan de lutte contre les violences scolaires mis en place en 2019 ?
Bon, c'est un grand classique. On a plus de 14 plans de lutte qui ont été mis en place depuis le milieu des années 80. Ils reviennent à peu près toujours sur le même schéma, à savoir une incrimination plus forte de certaines violences, mais souvent on se rend compte que c'est déjà le cas. Des formations éventuellement de certains personnels, et puis la définition de nouveaux corps ou de spécialisation pour la prise en charge de ces violences. Donc c'est un plan qui s'inscrit dans la continuité des autres, pas beaucoup plus ambitieux, pas moins non plus. Ce qui est souvent un peu dommage avec ces plans-là, c'est qu'on sait aujourd'hui par la recherche que ce qui marche, c'est d'abord travailler sur l'école, le cadre de l'école, la stabilité des équipes, l'accompagnement des équipes face à des élèves en grandes difficultés, etc., etc. Mais qu'on répond plutôt sur un registre sécuritaire dont on sait qu'il est assez confortable politiquement, mais très peu efficace. Donc la vraie question par rapport à ça, c'est s'il y a un enjeu d'efficacité, alors les registres sécuritaires sont vraiment à laisser de côté, même si on comprend bien leur intérêt du point de vue partisan. Mais il faut réussir à dépasser ça. Ce dernier plan ne le fait pas, clairement, mais comme ne l'ont pas fait beaucoup d'autres, ça n'est pas dans ces plans, parce que ces plans sont partisans.
Et que répondez-vous à ceux qui, pour régler la question des violences scolaires, voudraient faire entrer la police à l'école ?
Bon, c'est une vieille lune. Là aussi, les plans que j'évoquais depuis 83 m'ont évoqué régulièrement. Les policiers, c'est intéressant de leur demander quand même leur avis sur tout ça. Et il y a eu des expérimentations et en général, considèrent que c'est absolument pas leur place. Et ce qui se passe, et on a regardé ça d'un peu près avec un certain nombre de collègues, non pas parce qu'on n'est pas contre, par principe, pourquoi pas, regardons ce que ça fait. Ce que ça fait, c'est que les policiers en viennent à gérer les problèmes quotidiens de discipline et que ça ne sert plus du tout à ce pourquoi éventuellement c'était envisagé. Au-delà du symbole de faire entrer la police dans l'école, là aussi, ce n'est pas efficace. Il y a des pays beaucoup plus avancés que nous sur ces questions, je pense aux États-Unis en particulier. Les recherches d'un collègue qui s'appelle par exemple Russell Scriba montrent bien que ça ne marche pas, alors que lui-même défend cette idée par ailleurs dans d'autres espaces, mais à l'école ça marche pas, parce que l'école c'est un espace particulier, et ceux qui font la loi dans l'école, c'est les profs et les acteurs éducatifs et scolaires, c'est pas la police. Et le problème c'est que lorsque la police le fait, alors la dimension de globalité, la dimension de relations éducatives, la dimension de confiance est rompue, et on se retrouve avec des établissements souvent en très grande difficulté. Et il faut aller demander à des policiers ce qu'ils en pensent. Bien souvent, ils sont, au bout de quelques semaines, assez désespérés de constater qu'ils ne sont pas là pour gérer des crises fortes, mais plutôt du quotidien, et que donc ça ne marche pas parce que ce n'est pas du tout leur boulot. Donc, autant lorsqu'il y a des crises très fortes à la sortie des établissements, par exemple, que la police soit présente, ça semble assez logique et même sans doute souhaitable, autant une présence quotidienne dans les murs de l'établissement va venir travestir ce qui pourrait faire sécurité.
Quel regard portez-vous sur les équipes mobiles de sécurité académique à mi-chemin entre police et éducation nationale ?
Alors, je dirais pas qu'elles sont à mi-chemin, je dirais qu'elles sont quand même plus éducation nationale que police. Après, elles ont une culture de la sécurité. Et donc ça, on peut s'en réjouir, mais c'est pas des policiers. Les EMAS ou d'autres déclinaisons qu'on peut retrouver dans certaines académies, c'est des ressources précieuses, en particulier en cas de crise. Et je crois qu'il faut justement garder cette idée-là, que ce sont des ressources précieuses en cas de crise. Lorsque un chef d'établissement ou un directeur ou une directrice d'école est confronté à une crise, il faut qu'ils puissent avoir des relais immédiats, solides et des gens qui incarnent ça. C'est leur rôle. Et ils le font très bien dans un certain nombre d'académies. Et ils le font bien justement parce qu'ils sont de la maison, éducation nationale, parce qu'ils sont identifiés comme tels, même si dans certaines académies, il y a quelques travestissements qui alimentent l'ambiguïté. Mais globalement parlant, leur ressource, elle est éducative. Et là aussi, les recherches qui s'intéressent à ces questions-là montrent que ces acteurs scolaires, et j'insiste sur ce terme-là, ces acteurs scolaires se positionnent dans une galaxie qui est celle de l'école et pas celle de la police. Par contre, ils sont rompus, formés à un certain nombre de difficultés. Je pense aux intrusions dont on parlait tout à l'heure. Les EMS peuvent, ou les EMAS peuvent venir en appui le temps que la crise passe et qu'on arrive à réguler un certain nombre de difficultés autour de ça. Ils ne font pas tout, évidemment, mais ça peut être des ressources intéressantes sur le terrain.
En deux mots, qu'est-ce qui pourrait améliorer le climat scolaire et le sentiment de sécurité à l'école ?
Ça renvoie là aussi au podcast sur les incivilités qui est important. C'est un peu dramatique de devoir le dire tout le temps et de le répéter comme ça, mais on le sait, donc il faut le dire sans cesse. C'est la stabilité des équipes éducatives et la manière avec laquelle on fait collectif. En France, les enseignants n'ont pas l'habitude et ne sont pas formés à faire équipe. Pourtant, c'est là-dessus qu'il faut appuyer si on veut améliorer le climat scolaire. C'est là-dessus, avant tout le reste. On a maintenant 20 ans de recherche sur ces questions qui toutes confirment la même chose. C'est ça avant tout le reste. Donc il est temps peut-être de passer à une époque qui serait celle du collectif.
Merci Benjamin Moignard.
Merci à vous.
Merci d'avoir écouté Parole d'expert, le podcast de l'ASL qui aborde les grands sujets liés au métier de l'éducation. Pour écouter les autres épisodes, je vous donne rendez-vous dans la rubrique podcast du site internet de l'Autonome de Solidarité Laïque.